vous suggère ça comme exercice pour les vacances. Et ben, je le redis. Vous constatez qu'un truc, quelqu'un, une transmission de pensée, on va appeler ça comme ça, une transmission de pensée. Vous avez quelqu'un qui vous raconte quelque chose que quelqu'un d'autre vous raconte, vous a raconté dans peut-être même d'autres circonstances. Lacan, il ajoute, il dit, s'il y a un phénomène comme ça, qui est d'apparente transmission de pensée, c'est toujours quand il y a un acting out d'un autre patient, d'analyste, qui fait un acting out. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acting out? C'est ça la question intéressante. C'est pas un passage à l'acte, un acting out.
Excusez-moi, si vous êtes informé que les autres patients de l'analyste influencent...
Justement, et dans le l'acting out, ça va passer. Ça va passer dans l'acting out, mais il faut définir l'acting out. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acting out? L'acting out, c'est ce qu'on appelle psychose, c'est un acting out. Voilà une définition de la psychose. Le psychotique, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire et qui refuse de lire. Et du coup, c'est quelqu'un qui est dans le transfert, c'est-à-dire l'acting out, c'est du transfert sans analyse. Je répète, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'analyse? Qu'est-ce que c'est que l'analyse? C'est le transfert plus la lecture. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle l'inconscient qu'à partir du moment où il y a la lecture. Quand c'est pas de l'analyse, le transfert, s'il n'y a pas la lecture, c'est pas l'inconscient. C'est pour ça que le livre de cette dame, la psychanalyste, qui dit le délire psychotique, l'inconscient à ciel ouvert. Et ben c'est une dame qui sort de cette école. Elle est tellement savante, elle est tellement lettrée, elle est tellement érudite, elle a tellement l'habitude de lire comme elle respire qu'elle sait que pour elle lire c'est même pas un problème, paraît-il. Mais c'en est un, parce que elle se rend pas compte que lire le transfert dans l'acting out d'un autre, ça c'est autre chose. Mais l'acting out, c'est un transfert dont le sujet, justement, il manifeste quelque chose qui s'écrit et qui est à lire, mais il ne le lit pas. Vous avez qu'à voir l'histoire des Sellerfeld fraîches. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir, les enfants, quand ils rentrent dans la phase phallique et la castration, avec cette formule, ils sont en plein dans l'acting out. Personne n'est là pour lire ça pour eux. Et d'ailleurs, il ne faut pas lire, il faut les laisser qu'ils soient psychotiques et fous. Les enfants, c'est très bien. On les contrôle assez bien, physiquement, ils ne sont pas très fortifs. Ils n'ont pas des cocktails Molotov, ils n'ont pas une force physique. On arrive à les contrôler avec du Fénerland. C'est pas bon de conseiller, le mieux, ce serait de parler avec eux. Bon, mais pas faire des histoires. Mais non, mais le problème, c'est que les enfants, ils sont des fous et des psychotiques, mais merveilleux. Bon, seulement le problème, alors ils peuvent aussi être autistes, ils peuvent avoir tout ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand ils vont devenir adultes, ils vont devenir chiants. Bon. Et oui, c'est les adultes qui, eux, sont très, très emmerdants et peuvent être très dangereux. Bon. Mais le problème, c'est pas une raison d'abandonner toute raison et toute logique et toute implication et toute responsabilité. Parce qu'il n'y a rien s'il n'y a pas la responsabilité du sujet. Donc, je reprends. Qu'est-ce que c'est que l'acting out? C'est transfert sans analyse. Qu'est-ce que c'est que l'analyse? Il n'y a pas d'analyse sans transfert, on dit. C'est une phrase juste. Pas d'analyse sans transfert. Regardez, c'est une phrase comme celle-là. Hein? Pas d'analyse sans transfert, ça veut dire analyse implique transfert. Mais regardez, ça c'est vrai. Ça c'est une thèse du discours analytique. Ça c'est faux. Je vais mettre une étoile à côté. Transfert n'implique pas analyse. Ça n'existe pas. Le transfert n'implique pas l'analyse. La phrase vraie, c'est celle-ci. Le transfert n'implique pas l'analyse. Il n'y a pas d'analyse sans transfert et il y a du transfert sans analyse. L'analyse implique le transfert. C'est le transfert, c'est quoi, hein? Le transfert, c'est quand le sujet bute sur un silence, quelque chose qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas le dire. Hein, il se tait. Le transfert, c'est le silence. Dans l'analyse, la fonction de la parole, c'est le plus important. Parler, parce que le plus important, c'est le silence. Pourquoi personne ne dit ça? C'est pas un secret. Lacan l'explique mille fois dans son séminaire. Hein. Il dit quand un patient arrête de parler quelques minutes, quelques secondes, hein, une fois qu'il reprend le fil de sa parole, qu'est-ce que vous lui demandez? À quoi pensiez-vous au moment où vous avez arrêté de parler? Et Lacan d'ajouter, la plupart du temps, vous pouvez être sûr qu'il va vous dire une chose absolument délicieuse sur votre façon d'être habillé ou le mobilier de votre cabinet. La manière de dire chez vous, c'est C'est décoré d'une manière proverbique, et vous êtes habillé comme un flou, vous voyez. C'est ça, transférentiel. Transférentiel, c'est parce que là, il va s'adresser à l'analyste. Bon. Mais l'analyste, il vient comme un pax. C'est sa fonction d'être celui qui va se mettre en travers. Mais pas n'importe comment. Il ne doit pas se mettre en travers comme étant celui qui empêche l'analysant de faire son analyse. Il doit justement être celui que l'autre, l'analysant, va utiliser pour le mettre en travers, pour en faire prétexte à son transfert et au fait qu'il se tait. Bon. Donc, premièrement, arrêtez de vous faire pleurer avec les boniments de bonnes femmes et de curés, du genre « Oh là là, venez me parler dans mon cabinet d'analyse, ça va vous faire du bien, vous allez vous défouler. » Alors là, ça c'est après action. Alors là, c'est dépassé par Freud depuis très très longtemps. Mais Freud, il est génial, c'est un type qui nous a tout raconté, toutes ses erreurs. Il faut le dire comme ça. Freud, c'est un enseignement parce qu'il se trompe, mais il réfléchit, il arrive à se corriger lui-même. C'est ça, devenir analysant. Analysant, c'est être capable, grâce à l'écriture, d'écrire des trucs, vous voyez, même des trucs comme ça, pour arriver à se rendre compte que l'analyse, ça implique le transfert, mais que le transfert, ça n'implique pas l'analyse. Il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, vous allez penser ça en vous lavant les dents ou dans votre bagnole, hein, et puis vous allez l'oublier tout de suite. Alors écrivez-le. Utilisez l'écriture comme contrôle, comme supervision. Mais on n'a pas le droit de le dire aujourd'hui, puisque tous ces crétins veulent faire comme Lacan, qui a foutu tout le monde en contrôle chez lui. Ah oui, il a fait fortune avec ça, Lacan. Alors vous comprenez, tous ils étaient en contrôle chez Lacan. Ils n'osaient pas aller voir Lacan pour lui dire « Docteur, je voudrais faire une analyse », parce qu'il était réputé de prendre personne en analyse. Moi, on me l'a dit. Quand moi j'ai dit à quelqu'un « Je suis en analyse avec Lacan », il me dit « Mais non, c'est pas possible, Lacan, il ne prend pas d'analysant. » C'est complètement faux, regardez... Comment elle s'appelait, cette dame qui travaillait à l'Observateur, la conservatrice de Sébène, comment elle s'appelait Françoise Giroud, elle était analysante de Lacan, elle n'est même pas devenue membre de l'école. Non, bon, on n'est pas obligé de devenir analyste si on est analysant.
C'était Françoise Giroud, il les choisissait quand même.
Ah, peut-être qu'il les choisissait, c'est un grand médecin, c'est un grand psychiatre, c'est un grand psychanalyste.
C'est lui qui a été la voix.
Comment ?
C'est lui qui a été la voix.
Ah bon, en plus, peut-être, mais je ne sais pas, et ensuite elle est venue le voir. On ne va pas rentrer dans la chronique. Le problème, c'est qu'il y avait des analysants de Lacan. Selon le problème, c'est que tous ces petits messieurs, ces petites dames, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient, Lacan, la doxa, c'était. Vous savez, la doxa, ça se faisait dans les cafés autour du séminaire de Lacan et autour de son cabinet. Et donc, Lacan ne prend pas d'analysant. Alors, du coup, on n'osait pas aller le voir en disant, je voudrais faire une analyse avec vous. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait, je voudrais faire un contrôle. Ah, ils disaient, d'accord. Contrôle. Et comme ça, alors quand je dis ça, moi j'ai dit ça dans un colloque, à l'ministère, elle m'a dit, mais non, Lacan, il a fait son école grâce au séminaire. Elle tient absolument à la foule, à la fascination, au fascinum. Vous voyez ? Mais non, Lacan, il a fait son école avec le contrôle. Tous sont allés le voir en contrôle. Bon, et ben je dis qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire ça. C'est tout. Lacan peut le faire. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est Monsieur Lacan exceptionnel. Mais c'est quand même Lacan exceptionnel parce qu'il joue un rôle par rapport à Freud exceptionnel. Il faut expliquer pourquoi. Freud, il a inventé la psychanalyse, il a fait des trucs, beaucoup de conneries, la grandeur de Freud, c'est qu'il les raconte, ces bêtises. Il les raconte, il les analyse et il se corrige. Et ça, grâce à l'écriture. Il écrit 25 volumes. Donc voilà une manière non dogmatique de lire Freud. Pas prendre tout Freud pour de l'argent comptant et de répéter Freud a dit ceci, comme non. Bon. Freud, il a dit ceci, mais il nous raconte justement que... qu'est-ce qu'il dit ? Il disait la technique psychanalytique, je ne sais pas. Quand il dit le divan, par exemple, il dit, moi, le divan, j'en ferai pas une affaire, mais écoutez, moi, je ne supportais pas d'être en face-à-face pour voir le regard des gens avec toute la journée, avec des patients. Qu'est-ce que fait... il dit, il y avait l'hypnose qui m'avait permis d'allonger les gens... Ben, j'ai gardé le divan. Et le divan, ça m'a permis de pratiquer. Mais le divan, j'en ai pas fait. Il n'a pas fait une théorie du divan. Bon. Qu'est-ce que fait Lacan du divan ? Vous savez ce que fait Lacan du divan ? Vous avez lu ça dans la chose freudienne ? Dernier chapitre de la chose freudienne. Et Lacan, il dit « Jamais une logique ou un droit ne convaincra personne. » La seule chose à faire, c'est décider dans une agora ou un forum, c'est pour ça qu'il a proposé même un forum avant de mourir, hein, décider dans un agora ou un forum de commencer à utiliser un droit ou une logique et de voir ce que ça donne. C'est comme ça que ça s'est passé dans la cité grecque, pour donner la syllogistique d'Aristote. Hein. La démocratie, il faut débattre en public pour décider. Du coup, qu'est-ce que ça fait apparaître ? la logique et le métier d'avocat. Il y a des mecs qui spécialisent. Et Aristote, ensuite, il va prendre en note tout ça. Bon, c'est pas moi qui dis ça, c'est une dame qui est au Collège de France, là, qui est morte là, tout récemment. Elle s'appelait comment cette vieille dame charmante. Oui. Voilà. Bon, c'est elle qui dit ça très bien. La logique aristotélicienne, elle est née d'une décision d'un groupe humain de s'organiser d'une certaine manière. C'est vrai pour n'importe quel droit, n'importe quelle logique. Ça ne convainc personne. Alors là, comment il écrit ça? Il dit, mettez-vous, voilà, le seul point, c'est de noter quand vous commencez, quand, la date et le lieu. Voilà. Si vous décidez de faire quelque chose daté et situé, vous commencez. Et là, quand il conclut cette phrase en disant, et je continuerai à utiliser le divan pour amuser la mauvaise foi. Pas mal, non? Qui lit ça chez Lacan? Les mecs, quand ils lisent ça, ils se frottent les yeux et puis ils mettent de la confiture ensuite à la place. Non, mais écoutez, c'est quand même incroyable. Moi, il y a des phrases de Lacan que je mâche, que je réfléchis pendant des semaines, des mois, et la lecture est contingente. Il y a un moment donné, au cours d'un débat, d'une lecture, d'une conversation, d'une situation ou d'une autre, tout à coup, pof, je me dis, mais voilà parfaitement l'illustration. Je lis, voilà parfaitement l'illustration de ce truc que Lacan dit et que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a plein d'énoncés de Lacan et de Freud qui sont incompréhensibles. Pour arriver à les rencontrer d'une manière contingente, vous ne pouvez pas prévoir quand ça va vous arriver. C'est exactement la même chose que pour résoudre un problème de maths. C'est ça, lire. Les mathématiciens, c'est utiliser ça, c'est une école de lecture, vous voyez. Et la psychanalyse, ça marche comme ça. Alors, bien sûr, la psychanalyse, ça marche pas comme ça si on veut faire de la psychanalyse une escroquerie, une religion, une mystique, un truc pour bonne femme superstitieuse, ou pour mec un peu curé. Non, trouvez-moi une discipline profane comme les mathématiques, hein, et là, vous aurez l'idée de ce que peut être une psychanalyse profane. Je suis désolé, la psychanalyse, elle est profane chez Freud. Elle n'est pas athée, elle est profane. L'athéisme, c'est une autre histoire. Hein. Mais elle n'est sûrement pas de l'ordre de la croyance. Et alors, regardez maintenant comment ça marche, cette phrase. Regardez, cette phrase, si vous l'analysez, cette phrase, I de X égale X, ça veut dire, bêtement, c'est un résumé de tout ça. D'accord? Mais quand vous avez mis le petit doigt dans un petit bout du doigt, dans la machine infernale du langage, vous voyez que I de X égale X, qu'est-ce que vous constatez? C'est que cette phrase, vous pouvez la lire autrement maintenant, regardez. Vous dites I de X, bon, je sais ce que ça veut dire I de X. X est vrai, par exemple, ou X égale 1. I de X, d'accord? Bon, je sais ce que ça veut dire, mais oublions ce que ça veut dire. Ici, il y a I de X, d'accord? Il y a X qui est entre une parenthèse avec un I devant. Vous voyez ça? Bon. Et c'est quoi ça? C'est la même chose que ça. Faites tourner le panneau. C'est la même chose que X tout seul. Ah tiens, comme c'est bizarre comme fonction. Ça ne marche pas comme 2X. Hein, 2X, quand vous multipliez par 2 un nombre, X, ça fait... Si X vaut 1, ça fait 2. Si X vaut 2, ça fait 4. Si X vaut 3, ça fait 6, d'accord? Bon, c'est comme la négation, vous voyez, une fonction. X plus 1, quand vous avez la fonction de X, elle varie en fonction de X. Si X vaut 1, ici, ça fait 1 plus 1, c'est égal à 2. Si X vaut 2, ici c'est 1 plus 2, 1, c'est égal à 3. Si X vaut... Non. Alors en logique, c'est juste avec 0. 0 plus 1, c'est égal à 1. Et 1 plus 1, alors voilà la découverte de Boulle, c'est que 0 est 1 plus 1, 2, c'est égal à 0. Voilà, ça c'est Boulle. Bon. Donc du coup, en logique, il y a ça qui va apparaître. Bon. Mais c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler de la caractéristique 2, là, en ce moment. Je suis en train de vous parler du fait que quand vous avez une fonction, si vous mettez un n devant x, vous vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose qui soit différent de x, ici. C'est qu'on a fait, on a x, n est fonction de x. Donc, x va intervenir dans l'expression de n, mais va être modifié par x. Dès que n va changer en fonction de x, vous voyez, 1, 2, 3, 4, ça fait du 2, du 3, etc. Bon. C'est pas pareil, et... ça égale ça, mais les deux choses égales ne sont pas la même. Hein? Et surtout, il y a un n ici, et ici il y a plus 1. Donc ça vaut le coup d'écrire n de x égale x plus 1. Pourquoi? Parce que x plus 1, ça nous dit en quoi n modifie x. Ok? Le plus 1. Bon. Qu'est-ce qui est bizarre ici d'écrire ça? Hein, moi, quand j'étais prof de maths, et quand j'écrivais des trucs comme ça au tableau devant les élèves de seconde, ils disaient, il est con, ce prof. Il est stupide. Les maths, les gamins, tout de suite, ils se marrent. Quand vous leur écrivez que I de x égale x, ils disent, mais ça sert à quoi d'écrire ça? Ça sert à rien si I de x égale x. Hein, si c'est la même chose que x, I de x, c'est pas la peine d'en parler. Non? C'est, ce qui est c'est ça l'identité, vous voyez, ils sont obnubilés par l'identité. Si Julot c'est Julot, c'est pas la peine de le dire, je sais bien qui c'est Julot. Bon, les flics ils demandent la carte d'identité et puis le numéro d'immatriculation à la sécu, je sais pas. Tandis que le mec dans le quartier, dans mon quartier, c'est ça la nomination. Hein. Dans mon quartier, moi quand je rencontre Julot, je connais qu'il est Julot, je lui demande pas ses papiers. Comment je connais qu'il est Julot, ça je sais pas très bien. Mais Julot, c'est sûrement pas parce que c'est écrit sur sa gueule, c'est pas écrit sur ses papiers. Vous voyez, c'est ce qu'a dit Stuart Mill, hein. On connaît le nom de Dartmouth parce que Dartmouth, c'est l'embouchure de la Dart. C'est une ville qui est à l'embouchure de la Dart. Question de Stuart Mill. Mettons qu'on détourne la Dart, on fait passer la Dart à un autre endroit que par Dartmouth. Est-ce que Dartmouth va continuer à s'appeler Dartmouth? Oui. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi justement le nom n'est pas un numéro d'identité? Bon, ça, c'est une idéologie alphabétiste et arithmétique complètement occidentale, que de croire que le nom, c'est la même chose qu'un matricule. Non, le nom n'est pas un matricule. Le nom, ça peut être une insulte. Il n'y a pas de plus belle métaphore que les insultes. Hein, c'est des métaphores, les noms. Regardez, ça, vous savez comment ça s'appelle en architecture, ça? Vous savez comment on appelle ça en architecture? Comment? Non. Alors on dit d'une femme, quand on veut être insultant, par exemple, dans certains quartiers, à Paris, ou je sais pas, ça peut être à Toulouse, on dit, celle-là, c'est un trumeau. Un trumeau, cette femme, c'est un trumeau. Alors dans trumeau, vous avez plumeau. Vous avez truie, vous avez plein de choses. C'est quand même un condensé assez intéressant, trumeau. Hein. Voilà ce que c'est qu'une métaphore. Mais dire une insulte, c'est une métaphore et c'est un nom. Les sobriquets, voilà, le prototype du nom, c'est le sobriquet. Vous voyez. Mais regardez, d'où vient le mot trumeau? Ben ça, c'est un trumeau en architecture. Un trumeau, vous voyez, c'est quelque chose qui est entre deux fenêtres. C'est un morceau de mur qui est entre deux fenêtres. Par exemple, entre une porte et une fenêtre. Demandez aux architectes, ils vous diront qu'est-ce que c'est qu'un trumeau. Donc on prend un mot comme trumeau, et du côté du signifiant, vous voyez, ça chante, ça fait dégueulasse. Et quand un mec dit d'une femme, c'est un trumeau, celle-là, et ben les autres, ils rient. Enfin, ils rient ou ils comprennent pas, mais ça marche. Donc vous voyez, alors, je ne dis pas que c'est charmant, je ne dis pas que la langue c'est charmant, hein. Mesdames, ne croyez pas ça. Je ne vous dis pas du tout, je ne prends pas cet exemple, mais je vous dis que ça peut être pour n'importe quoi. Moi, justement, moi, je me reproche de ne pas utiliser suffisamment de noms d'oiseaux pour parler des psychanalystes. Je les traite tout le temps de crétins, d'imbéciles, d'idiots, mais enfin bon. Parce qu'ils commencent à me trouver, je commence à être un peu vieux, donc vous voyez, je n'ai rien à perdre ni à gagner. Je peux quand même le dire, quand même, pour me soulager un peu de cet ignorantisme qui fait honte. Bon. Mais par contre, il ne faut pas les attaquer nominalement parce que. Sauf ceux qui prétendent représenter la psychanalyse. Alors là, ils prennent une responsabilité énorme. Il ferait mieux de rester tranquille chez eux et de réfléchir un peu. Hein. Moi, je suis resté chez moi dans mon quartier pendant 15 ans, avec mes analysants, hein, on a travaillé. J'ai emmerdé personne. Maintenant, je vais même jusqu'en Argentine. Bon, ils vont peut-être en envoyer des tueurs là-bas, mais. je ne sais pas. Je suis allé à Bruxelles ce week-end et ils étaient très énervés. Ils étaient très énervés, les gens de chez Farine, là. Ah oui, ils supportaient pas ce tracon. Hein. Ah. Mais sauf que Firenze, il m'a invité, il était très content, lui. Ah. Parce que lui, il vit Lacan avec Kant. Il connaît très bien Kant. Et donc, il reproche à Lacan de ne pas être Kant. C'est un peu embêtant pour la psychanalyse. C'est pas terrible, mais écoutez, c'est comme extraordinaire, il dit que Lacan se trompe et que Lacan ne devrait pas écrire ça, parce que c'est pas dans Kant. Je lui dis, mais écoute, moi je lis Kant avec Lacan, Kant avec Sade, hein, j'apprends. Tandis que lui, il lit Lacan avec Kant et il s'étonne que Lacan, c'est pas Kant. Alors il dit qu'il y a des trucs incompréhensibles qui vont pas, il faut pas. La théorie de la psychanalyse, ça devrait être Kant. C'est intéressant comme point de vue, non? Bon, ben c'est un peu réactif, c'est un peu rétrograde. Mais enfin, à part ça, il est très savant, hein, et donc il a proposé une... Il comprend la réforme que propose Lacan de l'esthétique kantienne, il comprend ça comme une réforme de la sensibilité. Parce que chez Kant, il va venir à Rouen, vous allez le voir à Rouen, dans mathématiques et Lacan et les mathématiques, il va venir. Vous avez donc la sensibilité qui fournit l'intuition des objets et l'entendement qui conceptualise ces objets. Bon, ça c'est Kant. C'est une psychologie. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit bon, il comprend que réformer l'esthétique kantienne, c'est réformer la sensibilité. Moi, je lui réponds non, c'est réformer l'entendement. Et le mérite de ma réponse, c'est quoi? C'est qu'en plus, c'est un titre de Spinoza. Donc, je ne suis pas le premier à parler de la réponse. Alors, un prof de philo peut faire tout à fait une dissertation, même un livre, pour réfuter l'idée de se proposer de faire une réforme de l'entendement. Selon lui, c'est que Lacan, lui, il ne va pas hésiter à l'écrire dans la méprise du sujet supposé savoir à Naples en 67. Dans son texte, vous pourrez lire que Lacan nous propose et se propose une réforme de l'entendement. Eh oui. Parce qu'il s'agit d'apprendre à lire, donc il faut réformer la manière de traiter les objets qui sont dans l'intuition. Il ne s'agit pas, c'est ça l'entendement. L'entendement, il conceptualise. L'entendement, vous voyez, il fait que des trucs comme ça, des concepts, des ronds. Hein. Donc il faut faire autre chose que des ronds, il faut faire des calculs. Vous voyez les calculs que je suis en train de faire. Et il faut lire. Alors qu'est-ce que c'est que lire, vous voyez? Ça veut dire I de X égale X, ça veut dire que I de 1 égale 1, I de 2 égale 2, I de 3 égale 3. Mais vous n'êtes pas obligé d'être positiviste, vous n'êtes pas obligé d'être borné, vous n'êtes pas obligé d'être dogmatique. C'est comme ça qu'on a construit I de X égale X, comme fonction constante, comme fonction, comment, identité, faisant correspondre à n'importe quel objet, l'objet lui-même. Bon. Mais maintenant, lisez-le comme un enfant qui n'est pas bête, qui va devenir qui ne va pas rester complètement autiste, en gros. Regardez ça. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle X, qui est marqué par un indicateur I. X est vrai. X égale 1. D'accord? Et c'est la même chose que de rien mettre du tout. Ça ne vous fait pas penser un peu à ce qui peut se passer quand l'enfant, quand l'enfant voit ses parents parler et qu'il s'aperçoit qu'il y a une puissance de la parole. Puissance, je dis puissance. Un pouvoir de la parole. C'est pas le pouvoir des mots, c'est le pouvoir de la parole. Le fait de dire a un caractère impératif. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est impératif. On prend d'abord ce qu'on entend pour vrai. Tout de suite, on critique. On peut penser le contraire. On a le droit, on peut. Bon. Les esprits forts, ils font que ça. Mais ils oublient que d'abord, pour entendre quelqu'un, pour qu'une métaphore, pour qu'un trumeau devienne une insulte, c'est grâce à l'énonciation. C'est grâce au fait de parler qu'il y a un certain pouvoir, un impératif. Celui qui parle, il est impératif. Le seul philosophe français que j'ai lu qui écrit ça, c'est Brice Parrain, qui est sorti de cette école. Brice Parrain, il l'écrit explicitement quand il commande Pascal, dans son très joli livre qui s'appelle « Nature et fonction du langage ». Vous voyez, là, c'est même un titre que Lacan a repris pour faire son discours de Rome. Lui, Lacan, il n'a pas dit « nature », il a dit « fonction ». Hein, « fonction et champ ». Bon, mais « fonction et nature du langage et de la parole », c'était la conférence qu'il avait. Mais Brice Parrain, Lacan l'a lu. Et Brice Parrain, c'est le seul. Il a été très très mal vu parce qu'il était au Parti communiste. Il était sorti de l'école normale. Et tous l'ont considéré comme un con parce que c'est un type très gentil. C'est un type absolument charmant. Et même, il est tellement gentil. Regardez, vous avez. Si vous voulez connaître Brice Parrain, je vous conseille d'aller voir un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Une femme est une femme. Non, pas Une femme est une femme, excusez-moi. Vivre sa vie. C'est un film qui traite de la prostitution. Regardez Vivre sa vie. Dans Vivre sa vie, vous avez Brice Parrain qui parle avec Anna Karina dans un café. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire, mais elle est délicieuse. C'est l'histoire du type qui est mort le jour où, pour la première fois de sa vie, il a pensé. Très intéressant. C'est dans Alexandre Dumas. Comment il s'appelle? Porthos. Comment Porthos est mort le jour où, enfin, d'une manière contingente, une pensée est arrivée dans son corps. Il n'avait jamais pensé costaud, c'était costaud, hein, parmi les mousquetaires Porthos. Hop, pensée, bon. Et bien là, le mec, il meurt le jour où il a pensé pour la première fois. Bon, c'est Brice Parrain qui raconte ça à Einstein. Je vous conseille, vous verrez qui est Brice Parrain. C'est un type charmant. Il a écrit deux ou trois livres dans sa vie et il a été mis au banc parce qu'il était justement délicieux. Bon. Et il n'est pas poète, c'est pas le genre de mec à faire à essayer de récupérer la donne en disant ah ouais, je fais de la poésie. Non, non, c'est un type charmant qui fait de la philosophie. Il a fait le prof. Alors regardez, qu'est-ce qu'ils disent les enfants quand ils voient les parents parler comme ça d'une manière autoritaire sans se rendre compte qu'ils ont d'autorité. Ils disent la parole, l'énonciation, le fait de parler, ça donne une autorité à ce qu'on dit, mais eux, ils s'en rendent pas compte. Et oui, c'est une fonction d'identité. L'énonciation, c'est une fonction d'identité. Si, écoutez, l'autorité, c'est le principe phallique de l'autorité. Le phallus, ça nous paraît ridicule, parce qu'il y a une parade, il y a une fonction imaginaire du phallus, qui est une parade animale, d'accord? Mais cette parade animale, on peut très bien la tourner en dérision, mais elle est pire à partir du moment où le sujet parle, parce qu'il y a l'énonciation et que cette parade qu'il y a dans la parole, parce que les animaux, ils parlent, d'accord? Les animaux parlent. Pas seulement les frappes de la fontaine, ils parlent, ils ont une certaine posture. Ils prennent des postures, ils poussent des cris, ils aboient comme les chiens, ils ont des couleurs, vous voyez, tout ça c'est de la parole. Bon. C'est pas de l'écrit, c'est pas du langage, c'est pas. Non. C'est de la parole. Et donc, il y a cette posture, seulement avec la vérité et avec l'écriture, voyez-vous, la posture, elle peut devenir rien du tout. I de X, c'est un truc qui peut s'effacer. C'est même pire que s'effacer, regardez. Quand c'est présent, c'est absent, et quand c'est absent, c'est présent. C'est exactement ce que dit l'enfant du phallus. Si on était un peu moins crétin avec la castration. Regardez, les enfants, ils disent pas « ma mère, elle a un phallus », vous pouvez lui montrer le phallus. Ensuite, ils vont dire ça quand ils seront anorexiques, quand ils seront drogués. Oui, je sais très bien que la cocaïne, c'est pas très bon pour ma santé, mais je continue. Ben oui, écoutez, c'est comme ça, c'est I de X égale X, vous comprenez ? La cocaïne, c'est pas très bien, donc je devrais arrêter, mais si j'arrête, c'est pareil que si je continue, alors je continue. Ou j'arrête demain. Bon, demain, il sera demain, je vois. Ce sera un autre jour. L'anorexique, c'est ce que dit l'anorexique. L'anorexique dit le sein, même l'aliment, hein, et le sein, même si le sein c'est un ballon de foot, si c'est une sphère, si c'est un objet topologiquement assez peu intéressant, et bien ça peut quand même être un objet du désir. Voilà. Et l'objet du désir, à ce moment-là, c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. C'est quelque chose, justement, pour ne pas l'oublier, j'ai besoin de pas manger. Vous voyez ? Donc, allez dire à quelqu'un comme ça, il faut manger parce que c'est bon pour vivre. C'est quelqu'un qui va dire absolument, le désir, ben, ça mérite qu'on meure. Pourquoi le désir ne mériterait pas qu'on meure, d'ailleurs, hein ? Ben oui. Donc, il faut mieux mourir en crevant de faim que d'accepter ce monde où vous avez des gens qui ne savent pas se rendre compte qu'ils ont un pouvoir avec la parole. Comme moi, là, je suis en train de parler, vous voyez. Moi, je sais que ce que je fais, c'est entièrement phallique. La question est la suivante, c'est que parler, c'est phallique, mais est-ce que c'est seulement la fonction imaginaire du phallus, ou c'est la fonction imaginaire du phallus symbolique? Qu'est-ce que c'est que ce phallus symbolique? Ce phallus symbolique, c'est justement, il est là, il n'est pas là. C'est pas seulement la posture. Peut-être qu'il dit quelque chose, quand même, le gars qui parle. Voilà, on ne sait pas. Alors ça, ensuite, on va apprécier. Ben oui. Alors, bien sûr, c'est très facile, l'esprit fort. Hein. L'esprit fort, il dit, dès qu'il entend quelque chose, il pense le contraire. Mais il ne sait pas que l'énonciation lui a quand même déjà donné une pichenette. Il y a un doute. Parce que parler, c'est dire la vérité. Pourquoi parler, c'est dire la vérité? Parce que, vous voyez, la neige est blanche est vraie. La neige est blanche est vraie si et seulement si c'est la neige est blanche. La neige est blanche et verte. Non, la neige est verte, c'est vrai, si et seulement si la neige est verte. Ben oui, moi je peux faire des lapsus comme tout le monde, je suis pas une machine. Hein. Mais c'est contingent, des fois j'arrive à le faire sans lapsus. Bon, le problème c'est que c'est quand même une dose assez difficile à manier dans la parole. Mais il faut le faire. Et apprenez à écrire, écrivez des trucs, gribouillez des trucs sur un papier, vous allez voir, vous allez faire des progrès, vous allez commencer à devenir analysant. Contrôlez-vous vous-même, apprenez à vous contrôler. Utilisez la séance uniquement pour justement remiser ça un coup dans la parole. C'est tout. Il faut parler pour se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, ça s'appelle le transfert, et écrire pour s'apercevoir justement qu'on n'est pas content de ce qu'on raconte et qu'il faut l'améliorer un petit peu, et que des fois on se trompe, on fait des erreurs énormes de calcul, intuitivement. Bon. Alors on gribouille, on peut continuer à se tromper pas mal, mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte, c'est ça la tâche analysante la plus difficile, il faut se rendre compte qu'on peut résoudre des problèmes psychanalytique, aussi bien même que voilà pourquoi, parce que le freudisme, c'était la découverte que le corps écrit, que c'est lisible, n'est-ce pas, et qu'il y a de la raison bien au-delà de ce qu'on croit de la raison classique. Vous voyez, et c'est ça ménologique. Ménologique, c'est transformer la raison classique dans des ménologiques, et la raison classique écrite de la même manière mais autrement. Si j'écris deux fois la même chose, mais de manière différente. Là, j'écris des 0 et des 1, là, avec des U et des V. U et V, ils sont pris dans un espace qui est une algèbre de Boole, plus grande. Okay. Ici, vous avez une petite algèbre de Boole, vous avez juste 0 et 1. Bon. Et puis là, vous avez une algèbre de Boole où vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez plein d'éléments. Mais dans cette algèbre de Boole, vous allez avoir un nœud trivial, parce qu'il y a 0, il y a 1 quelque part. Alors 0,1, le nœud, la logique classique, elle va se retrouver dans cette algèbre de Boole. Ça, c'est quand vous prenez un rond et vous le mettez comme nœud dans un espace. Si vous le mettez dans l'espace comme un rond, ça s'appellera un nœud trivial. Il est pas doué. Un rond de ficelle, n'est-ce pas, que vous mettez comme rond de ficelle dans l'espace, sans le nouer, c'est un rond aussi. Et ça s'appelle un nœud trivial. C'est un nœud sans intérêt. C'est un nœud, mais c'est quand même un nœud, et c'est quand même quelque chose de x égale x. C'est le même, mais il a été plongé dans l'espace. Bon. Et puis là-dessus, vous êtes maintenant, vous prenez ce rond de ficelle, c'est toujours le même rond de ficelle, vous faites un nœud avec. Et puis vous le mettez noué, il est dans l'espace. C'est le même, mais il est pas tout à fait reconnaissable. Et vous avez mille manières, un million, une infinité de manières de disposer un rond de ficelle dans l'espace. Bon. Ben vous avez là, si ce nombre n est fini, vous avez un nombre fini de nœuds logiques. Bon, l'espace dans lequel vous plongez votre nœud, votre logique classique, ça, vous allez avoir un nombre fini. Tous les couples d'éléments, et où si vous prenez V ici et U ici, ben voilà, vous allez pouvoir fabriquer un nœud logique, c'est-à-dire un plongement déformé de la logique classique. Et c'est là que je vais se poser quel problème. Le fait que ça, c'est un nœud logique, vous voyez, 0 et 1, c'est le nœud trivial, et ça, c'est un autre nœud logique, U et V, d'accord ? Mais ils sont dans le même espace. Et donc, ils ont une relation entre eux, mais ils ont aussi une relation avec les autres éléments. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le nœud logique, qui est la logique intrinsèque. On peut raisonner classiquement dans UV, comme on raisonne classiquement avec le vrai et le faux. Mais il y a d'autres valeurs à côté. Alors c'est pour ça que je vous ai envoyé par email, avec comme dossier attaché, ce petit texte qui s'appelle, alors il faudrait refaire circuler une feuille pour ceux qui l'ont pas reçu. Quelqu'un a une feuille de papier là? Vous avez dans votre cahier là une feuille de papier,
ouais, ouais.
Dans votre bloc. Alors qui n'a pas, qui n'a là, pas, attendez, donnez-le, parce qu'il faut que Pascal commence à écrire son nom.
Il est là, Pascal, déjà.
Ouais. Non, il n'a pas écrit son adresse, il ne l'a pas.
Pascal, il ne l'a pas?
Non.
Pascal.
Oui, mon vieux, écoutez, vous avez écrit votre nom parce que vous êtes obéissant. Tout le monde est obéissant.
Un employé.
Si vous n'avez pas écrit votre nom, c'est pour recevoir ce texte. Bon, oui,
il y a une. Je vais corriger, hein.
Bon, alors je vais corriger, justement. Attendez, bon, il y a des erreurs. Et alors donc, je vais vous dire. Alors je suis très content qu'il y a donc Jacques qui m'a envoyé un email en plusieurs étapes. Parce qu'au début, c'était pas très explicite, puis ça s'explicite un peu mieux avec le temps. Ce texte, il y a cet arbre au début. Et puis ce texte, il va à la fin de ce texte, il y a ce théorème-là. Alors je vais effacer ce commentaire sur Aristote et ce commentaire sur la castration. Alors la castration, est-ce que vous voulez d'autres précisions pour piger qu'est-ce que c'est que le phallus et la castration? Moi je vous dis que le phallus et la castration, c'est que les enfants, dès le trauma, ceux qui ne veulent pas de ça, ils restent autistes, et ceux qui veulent bien rentrer dans ce jeu de dupes, ils s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose d'intéressant et ils deviennent, ça ne les empêchera pas au moment de l'incorporation d'avoir des difficultés aussi comme les autres, de devenir paranoïaques, c'est-à-dire psychotiques, mais ils rentrent quand même dans un acte, ils ne sont pas autistes. Et il se trouve que, vous voyez, ne pas rentrer dans ce jeu de dupes qui s'appelle la parole et son autorité, hein, ça rend débile. Bon, ça fait que le corps en prend un coup. Il y a un retard, hein, les enfants, on dit un peu retardés, mais ils peuvent grandir, hein, ils deviennent adultes, mais ils deviennent des gros poupons. Bon. Moi, je peux en parler avec tranquillité. Moi, j'étais assez débile quand j'étais petit. Hein. Donc, vous voyez, ça se soigne. Ça se soigne au sens où il y a des gens qui disent au contraire, vous avez une grosse tête, qu'est-ce que vous êtes intelligent, vous faites des mathématiques avec Lacan et tout ça. Pas du tout. Moi, je suis paresseux, curieux. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser. Mais par contre, j'ai beaucoup de considération pour la tragédie. La tragédie que chacun de nous vit et que tout le monde et que nous vivons collectivement aussi. Hein, parce que ça va barder, là, vous allez voir en Méditerranée. Jérusalem, ils vont se battre hein, pour Jérusalem. C'est une fiction, Jérusalem. Hein, c'est pas simplement un clocher, c'est quand même trois religions écrites, trois religions révélées qui se battent pour Jérusalem. Les trois ont une écriture différente. Hein. Vous allez voir un peu, dans un monde de psychotiques qui ne savent pas lire, ça va donner des étincelles. Non mais, écoutez, pourquoi on les a maintenus? Pourquoi on a prétendu que les Arabes étaient spécialement dévoués et voués à être dirigés par des tyrans? C'est quand même une insulte faite aux gens de considérer qu'ils ont besoin de tyrans pour rester tranquilles. Bon, alors maintenant on dit Ali, la Alibaba et les 50 dollars, il est parti en courant. C'est même extraordinaire que l'armée ait changé, de camp. Et pareil en Égypte, là, vous avez vu, l'armée a dit non, on ne va pas réprimer la manif. Non mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais ça risque d'être très 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 mauvais pour tout le monde. Parce qu'il y avait un consensus hein, quand même. Il y avait vraiment un consensus au détriment des Arabes et au détriment de tous ceux qui en prennent plein la gueule. Enfin, c'est comme, vous savez, c'est comme l'éducation des enfants. Vous avez remarqué, quand il y a un accident, on renverse de l'eau bouillante dans la cuisine, c'est toujours les petits qui prennent l'eau bouillante sur la gueule. C'est vrai, ils sont plus petits, ils sont en dessous. Ben oui, c'est cela. Donc il y a des trucs comme ça auxquels il faut faire attention. On n'est pas obligé d'être résigné. Bon. Le point, il est le suivant. Alors est-ce que je peux effacer ça? I de x égale x. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous avez un doute que ça écrit la fonction phallique? C'est exactement ce que dit Hans. Il dit ma mère a un fait pipi, ma petite sœur a un fait pipi, Anna. Oh, il est tout petit, mais elle va grandir et il deviendra grand. Bon, quand on lui dit, on lui montre, hein, c'est comme l'anorexie, l'addiction, tout ça. On va dire qu'ils ont perdu le sens de la réalité. Ah voilà, ça c'est Freud, il va revenir lui-même là-dessus. Cette histoire de réalité, c'est vraiment une histoire de nourrice. Ce principe de réalité, soi-disant, tout le monde s'en fout de la réalité. Et la science, c'est pas une science qui s'est développée grâce à l'observation de la réalité. La seule chose sérieuse à faire, c'est apprendre à lire. Si vous voulez observer, si vous voulez parler de la réalité, il faut déjà d'abord se frotter les yeux et savoir lire, parce que la réalité, vous ne pourrez prendre contact avec elle qu'à travers la langue, c'est-à-dire le langage. Et donc, ça va faire un filtre. Donc, vous avez intérêt à étudier déjà la langue, le langage, la parole, l'écriture, pour avoir un début de point de capitule avec ce que peut-être on pourra un jour appeler la réalité. Mais la réalité, la meilleure réalité qu'on connaisse, c'est celle qu'on fabrique. Vous voyez, c'est pour ça que le seul savoir qu'on puisse acquérir, c'est celui qu'on fabrique, c'est celui qu'on invente. Le savoir de l'autre, regardez, nous on a remplacé, écoutez, c'est pas du feu de bois hein, qui nous est fait, hein, c'est pas du bois qu'on fait brûler. L'électricité, c'est un réseau d'écriture. Et oui, et vous voyez, seulement ça peut aussi s'écrire dans cette réalité. Ces lampes-là, vous voyez, c'est des formules mathématiques réalisées dans le monde. Nous, l'espèce humaine, nous ne savons pas faire autrement que ségréguer entre nous et ségréguer dans le monde, du fait que le phonème, c'est la ségrégation. Bon. Maintenant, c'est pas une raison de faire ça comme un raciste, comme un pourri, et de prétendre en plus avoir l'accord du bon Dieu ou l'accord de la nature. C'est ni naturel ni divin. Il se trouve que nous sommes l'espèce la plus ségrégative de toute la création. Enfin, création, je ne sais pas. C'est-à-dire que notre... Regardez, qu'est-ce que c'est que les céréales? On fait des races de céréales comme... Lisez les Lévi-Strauss. les races de chiens. On ne sait pas faire autrement. Qu'est-ce que, partout où l'homme a travaillé, il a transformé le paysage, il l'a transformé en quelque chose qui est devenu plus ou moins artificiel. Si vous savez lire, vous voyez, à la tombée du jour, dans la campagne, dans la nuit, vous pouvez voir que même si vous êtes dans un endroit extrêmement désertique, je ne sais pas, aller en Ardèche, par exemple, ben vous verrez qu'il y a des lignes, c'est visible, ça a été recomposé. C'est un jardin. Ça vous paraît être seulement une région où on mange des châtaignes? Pas du tout. Il y a des gens, il y a des peuples, des groupes qui ont travaillé là et ils ont recomposé tout ça.